Je vous invite à faire une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 13, les versets 22 au verset 30. Et au premier abord, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que ce texte a à voir avec une réunion de prière? Mais vous allez comprendre par la suite. Luc chapitre 13, versets 22 à 30, Jésus traversait les villes et les villages et il enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il pas que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne seront pas capables. Quand le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, et que, resté dehors, vous commencerez à frapper à la porte et à dire, « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous commencerez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues. » Et il vous répondra en disant, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Il y aura là des pleurs et des grincements de dents. Et quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Amen. » Hier matin, j'avais préparé cette méditation. Et hier soir, il y a quelque chose qui est venu un peu me travailler, une phrase que le Seigneur a posée sur mon cœur. « Prier » ou être une prière. Dans ce texte, on pourrait se dire, mais pourquoi il est question de prier ou être une prière? Quand on commence à lire, à méditer, la question qui est posée à Jésus pourrait nous sembler légitime. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il pas que peu de gens qui soient sauvés? On pourrait se dire, il est finalement inquiet de voir aussi peu de personnes venir et sortir de leur situation de danger, de destruction, pour finalement être sauvés, gardés sains et saufs, délivrés du danger, sauvés du périssement, et sauvés de la souffrance, de la maladie, de tout ce qui pourrait finalement les opprimer comme Satan pouvait faire. Et bien souvent, je dirais qu'on pointe du doigt ce qui nous semble ne pas bien fonctionner sans réaliser que nous-mêmes, nous pouvons en faire les frais par manque de vigilance ou par manque de petits points. La réponse de Jésus, elle est forte. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne seront pas capables. » En lisant cette phrase, le Seigneur n'est pas en train de parler à la foule. Il est en train de parler à ses disciples. Et il leur dit, vous, efforcez-vous d'entrer. Et on pourrait se dire, mais déjà ils avaient fait un choix, ils avaient abandonné leur filet, abandonné leur travail, abandonné leur foyer, abandonné tout ce qu'ils devaient abandonner. Ils étaient avec Jésus, on pourrait se dire, déjà ça, Seigneur, c'est énorme, non? Et pourtant le Seigneur le dit, attention, parce que il faut vous efforcer de rentrer par la porte étroite. Pour entrer, il faut se séparer de tout ce qui est superflu. Pour être sauvé, il faut parfois être prêt à tout enlever. J'ai eu un prof à l'école qui était, il faisait des reportages pour la télévision et parfois, il faisait de la plongée sous-marine pour reprendre ses beaux récifs coralliens et tout le reste magnifique. Et des fois, il nous a montré des images superbes de ce qu'il y a sous la mer. Et un jour, il nous racontait qu'il était parti pour faire des reprises et il a essayé de s'enfiler dans un trou pour rentrer avec sa caméra, reprendre ce qu'il y avait au fond. Sauf qu'à un moment, il est resté coincé. Et il pouvait plus se débloquer. Il dit, et devant moi, il y avait une murène, très énervée. Et j'aurais pu me laisser prendre par la peur. Mais finalement, il dit, j'ai lâché ma ceinture avec les poids. J'ai libéré ma bonbonne d'oxygène. Et tout doucement, j'ai fait marche arrière. Jusqu'à tout laisser repartir en apnée pour remonter à la surface et seulement après aller récupérer mon matériel quand la murène était plus calme. Frères et sœurs, cela pour dire que parfois nos situations nous amènent et nous enfilent dans des problèmes, pas des moindres, et ça nous oblige à délester ce qui pouvait nous sembler une solution pour nous. Et là, dans ce texte, Jésus est en train de dire à ses disciples qu'il était question de passer par une porte étroite. Or, quand on doit passer par une porte étroite, on est obligé d'enlever tout ce qui est superflu. On ne peut pas continuer à garder notre sac à dos sur les épaules, on ne peut pas continuer à ramener nos valises. On est obligé de se dire, qu'est-ce que je fais? Je sauve les valises ou je me sauve moi-même? La semaine dernière, alors que j'étais sur l'avion, ils nous ont fait toute l'explication, vous connaissez un peu, hein, avant de partir, ils vous expliquent que s'il y a un problème, et là tu te dis, moi je prie. Moi je prie. Et après d'un coup, je regarde la porte et je me suis dit, elle est quand même étroite la porte. Hein? Et la recommandation, c'est de tout laisser pour sauver sa vie. Spirituellement, nous aussi, nous devons tout quitter pour sauver notre vie. C'est ce que Jésus est en train de dire à ses disciples. Efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. On va faire une autre lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, les versets 23 au verset 30. Matthieu, chapitre 19, versets 23 à 30, Jésus dit à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, entendant cela, étaient très étonnés. Ils dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et lui dit, « Voici que nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous de même qui avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, maison, frère, sœur, père, mère, femme, enfant ou terre, recevra beaucoup plus en héritage la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. » Jésus met l'accent sur le fait de devoir quitter des choses qui pourraient parfois prendre la place que Dieu doit avoir. Des choses qui pourraient par moments nous sembler étonnantes venant du Seigneur, puisque à quelque part, ce que Dieu a uni, l'homme ne sépare pas. Et là, il dit qu'il faut quitter sa femme. Alors, comprenons bien, n'utilisons pas ça pour dire « le Seigneur m'a dit que je dois quitter ma femme ». Loin de là. Mais à quelque part, il ne faut pas que ta vie spirituelle soit bloquée par les besoins des uns et des autres. Tu devrais mettre le Seigneur à la première place. Et c'est ça que le Seigneur est en train de dire. Et il est question de plusieurs qui seront plusieurs des derniers seront les premiers, il dit le texte. Alors que voulons-nous faire dans notre vie spirituelle? Est-ce que nous voulons rester en queue de tout ça ou nous voulons nous avancer, nous dire, Seigneur, je ne veux pas être le dernier. Seigneur, je ne veux pas être loin de l'arrivée. Je ne veux pas prendre le risque de ne pas arriver à temps et que les portes se ferment devant mon nez. Alors en lisant ce texte, je me disais, Seigneur, mais comment pouvons-nous finalement choisir et faire le choix qu'il se faut? Il est question pour nous finalement de prendre des décisions au bon moment et ce n'est pas toujours évident de prendre des bonnes décisions. Parce que les problématiques que nous avons nous amènent à devoir peser le pour et le contre. Et parfois on se dit, mais je n'ai pas le choix, je dois faire ceci. Mais mon frère, ma sœur, le choix, tu l'as. C'est à l'ennemi qu'il ne faut pas laisser le choix. C'est à l'ennemi qu'il faut dire, c'est pas toi qui vas gagner sur ma responsabilité et ma vie personnelle, spirituelle, avec le Seigneur. Ce soir, j'aimerais vous encourager dans le fait que cette parole nous amène à un certain moment à dire, oui, je peux prier, mais jusqu'à où ma prière va arriver? Si ma vie n'est pas en règle, jusqu'à où ma prière peut finalement s'élever vers le Seigneur? Quand j'analyse la parole de Dieu, je vois des hommes et des femmes qui avaient un certain type de vie avec le Seigneur. Je prends Daniel, qui prend le choix de ne pas se souiller avec les mets du roi, qui fait le choix de ne pas faire de compromis, qui fait le choix de ne pas mettre sa vie avant sa relation avec Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce que Dieu honore sa foi? Vous savez pourquoi? Parce que Daniel, avant de prier, il était lui-même une prière. Sa vie priait. Par son témoignage, sa vie était le reflet de ce que Dieu avait fait en lui-même. Et avant de prier, nous devrons dire, Seigneur, dans ma vie, est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui empêche ma prière de venir vers toi? Seigneur, s'il y a quelque chose, montre-moi, parce que je ne veux pas rester bloqué. Il y a des années de cela, une personne qui venait à l'église et qui priait avec ferveur, vient me voir à la fin d'une réunion, me dit, pasteur, je comprends pas, j'ai des problèmes, j'ai des soucis, pourtant je suis une femme de prière. Je dis, écoute, on va prendre un rendez-vous, on va un peu discuter, parce qu'à mon avis, il doit y avoir quelque chose qui bloque. Et donc, on est en rendez-vous, on discute un peu, et j'essaie de faire un peu le tour de la situation avec elle, ok, comment tu vas, comment tu vis, qu'est-ce que tu vis, comment ça se passe chez toi. Et là, elle me dit, voilà, j'ai mes enfants qui sont un peu une source de problèmes, et ceci et cela. Elle m'explique, et je prie pour eux, et je jeûne pour eux, et je dors pas à cause d'eux. Mais il y a rien qui change. Et en continuant de discuter, elle m'explique que ses enfants, toutes les semaines, lui donnent de l'argent. Sauf que cet argent est le fruit du trafic que ses enfants font. J'ai dit, tu sais d'où ça vient cet argent? C'est de l'argent qui n'est pas propre. Et après, tu veux que Dieu te bénisse? Il y a un souci, non? Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas finalement se dire, mais Seigneur, merci pour l'argent que tu m'as donné quand cet argent vient de quelque chose qui n'est pas digne, qui n'est pas normal. Et encore aujourd'hui, combien pensent que Dieu ne voit pas ou en tous les cas que Dieu laisse passer? Le simple fait de prier ne blanchit pas les choses. Si ton cœur est noir, il est noir. Si tes mains elles sont sales, elles sont sales. Tu as besoin de venir au Seigneur, mais d'abandonner ton péché. Et un jour, elle vient en catastrophe parce que ses enfants ont été arrêtés. Pasteur, prions pour qu'il n'aille pas en prison. J'ai dit, écoute, je vais te choquer. Moi, je vais prier pour qu'ils y aillent, pour qu'ils arrêtent, et que là, en prison, ils rencontrent le Seigneur. Parce que toutes les prières que tu as faites jusque-là les ont amenées juste, finalement, plus loin que ce qui aurait dû être fait. Et je crois que le Seigneur doit les stopper. Parce que si Dieu ne les stoppe pas, demain, quelqu'un risque de les stopper une fois pour toutes tes enfants. Et ça n'a pas tardé, une semaine plus tard, il y a eu des coups de fusil, des coups de pistolet, des règlements de compte. Elle me dit, pasteur, heureusement, mes enfants, ils étaient au couvert. Hein. Parfois, on est étonné. Et excusez-moi si je vous dis ça, mais parfois, on est étonné de voir ce que les uns et les autres peuvent vivre et de l'autre côté, à s'attendre que Dieu puisse rentrer dans nos magouilles. Je dis les choses comme elles sont. Ça vous choque? Si je lis ce texte, il me dit que je dois m'efforcer. Donc, il y a quelque chose qu'il faut que je puisse examiner. Seigneur, je veux que rien puisse devenir une aspérité dans ma vie personnelle et dans ma vie de prière. Avant de venir prier, moi-même, je dois être une prière qui s'élève vers toi par mon témoignage. Quand les autres nous rencontrent, il faudrait qu'ils puissent dire de nous, c'est une grâce, une bénédiction de Dieu, ce changement de vie, cette transformation. Et Jésus, regardez, il le dit, je ne sais pas d'où vous êtes. C'est étonnant, comment Jésus ne sait pas d'où ils sont? En réalité, cette je ne sais pas d'où vous êtes, en effet, ça veut dire, est-ce que vous êtes avec moi ou vous êtes étranger? Pas dans le sens de la nationalité, hein. Ce n'est pas une question de vouloir avoir des propos racistes, loin de là. Mais il est question finalement de comprendre quelle était la base et le sens spirituel de leur vie. Est-ce que vous êtes à Dieu ou pas? Est-ce que vous marchez avec Dieu ou pas? De quelle est votre origine? Quelle est la source qui alimente votre cœur et votre pensée? Quand le matin on se lève, on commence à lire la Bible, nos pensées sont bien, hein, non? On est heureux, tout va bien. Mais si on commence à laisser autre chose s'introduire, nos pensées peuvent vite tourner dans le mauvais sens. Et au lieu d'avoir des pensées qui honorent le Seigneur, au lieu d'avoir, comme notre frère disait tout à l'heure, les oiseaux qui chantent et on bénit le Seigneur, on s'énerve parce que ça fait du bruit, ça nous casse les oreilles. tout peut changer. Pourquoi ? Parce qu'on est mal dans notre cœur, mal disposé, mal luné. Mon frère, ma sœur, si quand tu es comme ça, tu penses que tu peux finalement prier, moi je vais te dire, arrête-toi, mets de l'ordre. Fais le ménage dans ton cœur. Parce que ton cœur ne peut pas être dans ces conditions-là. Mais il a besoin d'être lavé, d'être purifié. On va lire un texte pour aller plus loin, simplement. Si on peut prendre le texte de Jacques chapitre 4, versets 1 à 10. Je raccourcis. Jacques chapitre 4, versets 1 à 10. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier, et envieux sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Comment je ne demande pas? Mais en effet, ta vie ne demande pas, tes mots, oui, mais ta vie, non. Si tu viens avec tes mots au Seigneur et tu demandes des choses et ta vie n'est pas conforme à tes mots, mais ta prière s'arrête au plafond. Ce n'est pas le fait de crier que ça va arriver au Seigneur. C'est ce que tu vis qui parle bien plus que ce que tu dis. Et alors le texte dit, adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dit en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous? Mais il donne une grâce supérieure, puisqu'elle dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne grâce aux humbles. Qui veut une grâce supérieure ce soir? Oui? Mais ça veut dire dépouille-toi. Il faut accepter de se dépouiller de nos traditions, il faut accepter de se dépouiller de toutes ces choses qui finalement sont plus un empêchement. Et regardez ce qu'il dit, la suite. Soumettez-vous donc à qui? Et résistez à qui? Et parfois on résiste au diable et on se soumet à Dieu. Non? L'inverse? Oui, tout à fait. Vous avez bien suivi. On résiste à Dieu. Seigneur nous dit quelque chose, mais non Seigneur. Parce que ça me coûte. Je préfère le chemin large, Seigneur. Là, c'est trop étroit. Je suis à l'étroit dans mon cœur. Mais le Seigneur voudrait te mettre au large de ce monde. Mais si tu te soumets à Satan au lieu de te soumettre à Dieu, au lieu de fuir loin de toi, il se colle à toi. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est beau ça, non? Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et vous élèvera. Quand est-ce que notre cœur s'élève? Lorsque Dieu répond à ta prière, ton cœur s'élève? Lorsque le Seigneur vient au secours de tes problèmes, de tes difficultés, est-ce que tu es relevé de la part du Seigneur alors que tu viens de passer peut-être des moments très compliqués? Est-ce que la joie reprend sa place? Est-ce que ton sourire retrouve sa place? Pourquoi? Parce que tu as su choisir, non pas seulement de prier, mais de être une prière. Est-ce que ce soir, on est prêt à être une prière? Parfois, vous savez, il n'y a pas besoin de dire grand-chose à Dieu. Parfois, on a besoin juste de passer du temps dans la présence du Seigneur et dire, Seigneur, pardonne-moi. Et si le Seigneur te montre quelque chose, dis au Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, ce soir. Parce que ça ne devrait pas avoir de place dans ma vie. Seigneur, ce compromis, je l'ai accepté, mais il ne doit pas avoir de place dans ma vie, Seigneur. Peut-être que j'ai trouvé ça, la voie un peu plus rapide, plus simple, Seigneur, j'ai accepté ça, mais Seigneur, ça ne peut pas avoir de place dans ma vie. Un jour, quelqu'un me disait, tu sais, On a besoin d'une photocopieuse, on m'a proposé une photocopieuse tombée du camion. Et moi, je dis, si elle est tombée, elle est plus bonne. Hein. Oui, mais le prix est intéressant. Oui, mais c'est pas bon. Et la personne ne m'a pas écouté. Il a acheté sa photocopieuse. Il rentre tout heureux en pensant avoir fait une affaire. Il la branche et ça fume de tous les côtés. Et du coup, il dit, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi? On en avait besoin. Sauf que Dieu ne peut pas bénir ce type d'achat. Alors, si cette description vous parle dans quelque chose peut-être qui se passe chez vous, mettez de l'ordre. Si ton mari ou ta femme ou tes enfants amènent des choses qui ne sont pas dignes de ta maison, ne les accepte pas. Fais du propre. Et si dans ton cœur ce soir le Seigneur te montre quelque chose, bien évidemment, tu as besoin de prier. Bien évidemment, tu as besoin de solutions. Mais souviens-toi que si tu veux une grâce supérieure, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Même la guérison. Je termine par ça. Mon frère, un jour, il m'appelle en me disant, et tu sais, le Seigneur veut que je le serve, mais je ne veux pas. Je ne veux pas parce que je sais ce que ça coûte. Je dis, viens, prends un temps, tu viens me voir. On va à un jeûner prière. On va au jeûner prière et là, il s'est pris de ses paroles. Ah, Dieu l'a mis dans le coin du ring et boum, boum, boum. Et en repartant, je dis, alors t'as compris. Non, 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 non. Je dis, tu sais, mon frère, avec Dieu, ou tu te plies, ou il te casse. Tu ne peux pas résister. Il est parti. Une semaine plus tard, on m'appelle pour me dire qu'il est complètement bloqué au lit. Plus capable de marcher, plus capable de monter à l'étage. Il est obligé de dormir chez mes parents parce qu'il est dans mauvaises conditions. Et mon père m'appelle, il me dit, il faut prier pour ton frère. Je dis, moi je prie pour lui, mais prie pour que ses idées changent. Je ne comprends pas. Je dis, dis-lui juste, ton frère a dit de te dire qu'il faut que tes idées changent. Et il a résisté encore quelques jours. Et la douleur, elle a résisté aussi. Jusqu'au moment où finalement, il a appelé mon père, il lui a dit, écoute papa, voilà ce qui se passe. J'ai compris. Est-ce que tu peux prier avec moi? Je vais faire ce que Dieu me demande. Il termine de prier. La douleur, elle part. Il peut se lever du lit, il peut retourner chez lui. Et si ce soir ta situation est liée au fait que tu t'es entêté? Parce que vous savez, ça, c'est pas que si on est appelé au ministère. Hein. Dieu nous traite tous de la même manière. Et si ce soir ou depuis un certain temps, tu résistes à Dieu parce que tu ne veux pas finalement accepter ce que Dieu attend de toi. Dieu est prêt à donner une grâce supérieure. Mais il est aussi capable de résister. À toi de voir. Prier ou être une prière. On va fermer nos yeux. Seigneur, parfois ta parole, elle peut nous sembler dure, elle peut nous sembler difficile à entendre, difficile à accepter. Même ceux qui ont entendu ta prédication ont dit que tes paroles étaient dures. Seigneur, lorsque ta parole s'adresse à nous d'une certaine manière, c'est parce que nous en avons besoin. Et si ce soir on a besoin, Seigneur, de faire un point sur nous-mêmes, non seulement de venir prier pour avoir le sentiment d'avoir fait ce que nous devions faire et qu'après tout le problème reste entre tes mains. Seigneur, si le problème c'était nous-mêmes, si le blocage c'était nous-mêmes, si le changement dans le cœur de nos enfants était lié à nous, à nos paroles, à nos actes, à nos décisions, Seigneur, si la problématique dans le couple est liée à quelque chose qui ne va pas, Seigneur, on a beau prier, mais cette prière ne peut pas trouver de réponse parce qu'on est orgueilleux. On agit, Seigneur, d'une manière qui est indigne de ta personne. Et lorsque tu nous interpelles sur le pourquoi des luttes, les querelles et tout le reste, Seigneur, nous ne pouvons pas faire semblant de rien, mais nous devons, Seigneur, comme ta parole nous le dit, nous soumettre à toi, nous humilier devant toi, accepter, Seigneur, finalement, de dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Seigneur, si ce soir tu as permis que nous puissions partager cela, c'est que tu as des raisons bien précises. Moi, je ne les connais pas et je n'ai pas besoin de les connaître. Mais ce que je te demande, Seigneur, que chacun, en sortant de ce lieu, Seigneur, puisse dire, j'étais venu prier, mais maintenant je suis une prière. Que ton nom soit béni, Père.